Vous l'avez sûrement vu ou même vécu, cette tendance à s'excuser, vous savez, tout le temps, à refuser toute forme de compliment, à dire dans un soupir « c'est pas moi, c'est le hasard, c'est les rencontres, j'étais là au bon moment ». Cette tendance à s'empêcher d'avancer carrément, parce qu'on se dit qu'on le mérite pas, qu'on nous prend pour quelqu'un d'autre, qu'on va être démasqué. Au début, ça ressemble à de la modestie, à de l'humilité, ça peut être plus compliqué. Ce doute omniprésent sur la légitimité, on appelle ça, depuis les années 70, le complexe ou le syndrome de l'imposteur. Moi, j'appelle ça de la lucidité, tout simplement. De la lucidité face aux mécanismes du succès et à cette notion de mérite qu'on prend encore pour acquise, dont on a fait une valeur, mais qui pose quand même problème. Est-ce qu'on a vraiment du mérite quand l'entourage, le milieu, la classe sociale reproduit des réussites? Comment définir le mérite? Est-ce que c'est le travail, vraiment? Mais alors, quels sont ceux qui ne méritent pas? Et pourquoi? Si ça se trouve, je dis bien si ça se trouve, tous les succès sont un petit peu liés au hasard, aux rencontres, au fait d'être là au bon moment ou d'être né au bon endroit. Le syndrome de l'imposteur, vous conviendrez que ce serait la moindre des choses dans ce cas-là.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui souffre-t-il du syndrome de l'imposteur? D'abord acolyte inséparable d'Orelsan en musique avec les Casseurs-Flotteurs, à la télé, dans Bloqué ou au ciné, dans Commencer Loin. Depuis 2 ans, il s'affirme et se confirme en solo. Après son premier album Enfant Lune, c'est avec Ensemble, on aboie en silence qu'il nous revient. Un témoignage bouleversant où il mêle sa voix à celle de son frère. C'est un récit de fraternité. Bonjour Gringe.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Ce matin, alors quel imposteur est-ce que vous êtes?
Quel imposteur je suis? Total, complet. Un imposteur de compétition qui a pratiqué en club pendant sa jeunesse. Quel imposteur je dois répondre à quel imposteur je suis?
Peut-être.
Je pense que mon talent, c'est d'avoir su rencontrer des bonnes personnes, de m'être retrouvé sur leur chemin.
Ça, vous le faites encore là.
Ouais, ouais. Bah, évidemment, je peux te tutoyer ou pas?
Vous pouvez me tutoyer, moi je vous tutoie pas.
Ok, ça marche. Bah, je vous donne du grain à moudre.
Ce sentiment, à quel moment de votre vie est-ce qu'il s'est manifesté avec le plus de force?
Je sais pas, je pense que c'est un truc à un moment donné de se sentir effacé, puis de pas savoir vraiment ce qu'on veut, quoi. Je pense que j'ai été un vrai contemplateur et un observateur. Je me résignais à ça, quoi. C'est-à-dire toute la période où je rencontre Aurèle et où je vis à Caen, je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas envie de bosser. Je finis mes études, mais je l'ai fait pour rassurer un peu ma mère, mais. Et voilà, je me dis de toute façon, je veux pas me conformer. Donc, je vais passer mon temps à observer les autres et ça m'ira bien comme ça.
C'était lié aussi peut-être un peu à la culpabilité, Gringe.
Bah, certainement déjà un petit peu, mais et après il y a effectivement ce truc de il faut quand même monter sur scène, baquer Aurèle et puis il y a les Casseurs. Donc là, je suis d'un coup, je me retrouve exposé sous la lumière, sous le feu des projecteurs et là, je peux plus fuir, quoi. Je peux plus me cacher derrière mon pote. Et là, le problème de légitimité se pose vraiment à ce moment-là, quoi.
Mais la culpabilité, elle est absolument centrale dans votre récit. Comment on fait pour composer avec ça, pour pas se laisser ronger par la culpabilité?
Justement, je pense que c'est aussi une manière de d'exorciser ça. Bon, en tout cas, de le fait de triturer cette chose-là dans mes textes, tout seul, en solo, c'est une manière justement de peut-être d'aller vers l'acceptation, vers quelque chose de ce syndrome de Salieri ou là de l'imposteur, c'est se dire ça y est, maintenant tu vois, c'est arrête de complexer, fous-toi à poil. Et je pense que c'est aussi pour ça que mes projets tout seul, je me mets à nu comme ça, quoi.
Vous racontez ça, vous l'avez toujours fait quelque part, y compris dans le cadre de votre duo avec Orelsan. D'ailleurs, quel aspect de votre personnalité est-ce que vous racontiez à l'époque avec lui?
C'était très adolescent, très cure dans le discours et dans l'attitude et dans tout ce qu'on. Et c'était un mode de vie qu'on avait vécu vraiment en meute pendant 15 ans. Peut-être même plus, et du coup c'était toujours très frais dans nos esprits, quoi. Puis on avait les réflexes de grands ados toujours quand on se voyait passer 30 piges. Du coup c'était facile pour nous de se replonger là-dedans, mais on racontait, on chantait un mode de vie déjà un peu révolu.
Et ce mode de vie, bah on peut dire vous étiez bloqué.
Bloqué, complètement fumé, complètement fumé. Tu nais, tu vis, tu meurs et tu pars en fumé. Tu sais même plus pourquoi t'as commencé à fumer. Hareng, saumon, jambon, fumé. Quand ça fait des blagues, tu remontes jamais le niveau. Ta voiture a calé sur le passage à niveau. J'ai perdu toutes mes vies dès le premier niveau. La bulle d'air sous mes choses me sert de niveau. Le père de Ranma finit toujours en panda. Je peux faire plus de clics que le sneezing panda. T'as un œil au beurre noir, t'as la gueule d'un panda. Paris-Marseille assise dans une Fiat panda. J'ai tendance à bloquer, bloquer. J'ai tendance à bloquer.
C'était aussi le générique de la mini-série Bloquée dans laquelle vous jouiez Gringe aux côtés d'Orelsan. Et vous le dites, hein, dans votre livre, votre rencontre avec Orelsan, elle a été déterminante. Pourquoi ?
Parce que c'est le premier pote qui m'a... Enfin, c'est le premier pote. C'est celui qui m'a fait confiance, qui m'a proposé, qui m'a tendu une perche près de Chant des Sirènes. Il est chopé ses victoires de la musique, il commence à être très identifié, très installé. Et puis d'un coup, il me dit, bon bah, on fait un album de potes. Je lui dis, mais t'es fou, pourquoi cette tentative de suicide, t'es sûr de vouloir faire ça? On n'avait plus rappé ensemble depuis très longtemps et tout. Et il me disait, mais c'est pas grave, on fait des morceaux, et puis si c'est pas bon, on les sortira au cas par cas. Je lui dis, mais Aurel, enfin... Et puis voilà, il me fait confiance et du coup je dois me mettre à niveau.
C'est ça, il vous a tiré vers le haut, c'est
ouais,
ce que vous dites.
Toujours. Ça s'est rééquilibré un peu par la suite avec Bloqué et le film, mais Aurel m'a quand même ouais, bien boosté.
Parce que vous semblez dire toujours, Gringe, que ce sont les autres qui ont cru en vous, les autres qui vous ont toujours poussé, qui vous ont aidé.
Ouais, c'est vrai. C'était pas le seul Aurel, il y avait dans l'entourage, il y avait Scred et Ablai qui sont toujours mes producteurs et mes amis et toujours, il y a toujours un discours hyper rassurant, hyper bienveillant, un peu paternaliste et c'est vrai que si c'était pas ce travail au corps, il m'était pas fait. Moi, j'étais tous les jours dans un discours à me déprécier, à me dire mais non, mais pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'aurais plus à raconter que les autres quoi.
Et votre petit frère, il vous a tiré vers le haut?
Ouais, complètement.
En quoi?
En quoi? Pareil, absence de jugement, bien totale bienveillance et puis dans son discours, alors après je rééquilibrais aussi avec Thibaut, mais Thibaut c'était c'est toi qui m'a donné le goût de l'écriture, c'est toi qui m'a donné envie de alors que moi je pense intimement que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est que je voyais mon frère écrire, faire de la photo, enfin il y a une espèce de truc où non, c'est très beau la manière dont il c'était très narcissisant dans le regard de mon frère.
Pourquoi j'en parle? Parce qu'évidemment c'est votre histoire et celle de votre frère que vous racontez dans Ensemble on aboie en silence. Vous la racontez avec lui. C'est un projet en binôme. Quel binôme est-ce que vous formez avec ce frère?
Un binôme très étrange, hein, parce que mon frère entend des voix, donc alors moi aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui il les convoque, il maintient les cartes un peu à sa guise. Mais bon, en m'embarquant sur ce projet, je sais que je vais me confronter à son refus immédiat. Je sais qu'il est pudique et qu'il a écrit des textes sur l'HP il y a 15 ans et qu'il ne les partagera jamais. J'étais tombé sur quelques-uns, j'avais trouvé ça fantastique, mais je savais qu'il ne les partagerait pas. Et puis ça s'est vite confirmé. Quand je lui ai dit, il y a une maison d'édition, deux maisons d'édition qui nous proposent un projet d'écriture. Il me dit, non, mais moi c'est mort. Puis j'ai encore moins sur la schizophrénie, tu vois. Il n'est pas m'emmerder avec ça, je veux pas vivre l'intrusion. Et puis voilà, je veux pas parler de moi, quoi. Je savais qu'il était... c'est l'hypothèse que j'aimais dès le début du livre, quoi. Est-ce qu'il n'aurait pas passé un pacte avec les voix qu'il entend qui lui interdisent d'en parler? Et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis des années.
Votre frère, il a été diagnostiqué schizophrène il y a bientôt 20 ans, cette maladie que peu de gens comprennent. Vous avez aussi mis du temps à la comprendre, Gringe. Qu'est-ce que vous en avez compris aujourd'hui?
Ce que j'en ai compris, c'est hyper suggestif, quoi. Ce que j'en ai compris, il y a ce qu'on m'en a dit, il y a l'avis des spécialistes, et puis il y a ce que je pense intimement, c'est-à-dire que mon frangin, j'ai tendance à le croire moi quand il me parle de ses visions auditives et même visuelles, quoi. Parce que c'est mon frangin. Du coup, il y a un truc où d'un côté, il y a côté raisonnable où je me dis mais tu viens de rencontrer un spécialiste en biologie moléculaire qui t'explique que c'est la combinaison un peu détonnante de facteurs environnementaux et d'une problématique génétique. Et puis d'un côté, il y a ton frangin qui te regarde droit dans les yeux. Et qui te dit, regarde, là je vois ça. Et
vous parliez de voix, et c'est assez fascinant, parce que ce livre, il a été composé à deux voix, la vôtre et celle de votre frère, deux voix qui sont parfois se mêlées l'une à l'autre. Qu'est-ce que vous entendez dans sa voix, à lui? Là, c'est autant à l'homme qu'au musicien que je parle.
Qu'est-ce que j'entends dans sa voix? Tout un monde onirique et peuplé d'entités vraiment concrètes pour lui, ça je peux en parler des heures.
Une multitude de voix en fait.
Ah ouais, une multitude de voix, les bienveillantes et celles qui lui soufflent des fois de faire un peu n'importe quoi.
Vous les connaissez toutes?
Non, j'en connais aucune, vraiment j'en connais aucune, c'est juste que je le vois interagir avec.
Alors dans de pareilles circonstances, comment est-ce que vous êtes parvenu à lui faire entendre la vôtre de voix, à vous faire entendre en fait?
Justement, je pense qu'il y a eu plusieurs tentative de séduction de ma part pour l'embarquer avec moi. Et puis à un moment donné, le discours de dire, écoute Thibaut, à travers ton témoignage et tes témoignages, quoi, est-ce que tu vas bien vouloir me donner de confession? Il y a des gens que ça pourrait aider, qui se sentiraient moins seuls peut-être. Quelque chose qu'il n'envisageait pas du tout, mais moi non plus. Hein,
c'est cet argument qu'il a entendu.
Ben, je pense. Il y a un côté hyper empathique chez mon frère, et je pense que ça, à un moment donné, et puis lui, qui connaît quand même bien cette pathologie, les gens qui la subissent, et puis l'environnement, les instituts, enfin dans lesquels ils peuvent interagir les uns avec les autres. Quoi. Je sais qu'il a une conscience de la souffrance que ça engendre chez l'autre aussi. Quoi. Donc ça, c'est devenu un moteur rapidement. Et je pense que sur la durée, c'est ce qui a fait qu'il est resté constant. Et je le mets entre guillemets, parce qu'il a voulu me récupérer des textes. Toutes les deux semaines, il revenait. Il dit, Guillaume, j'ai peut-être récupéré le truc que je t'ai filé. Mais quand même, il y a une espèce de constance chez lui que j'avais pas anticipé, quoi. Parce que ce discours-là a résonné.
Et le rappeur, comédien et auteur, dont Gringe, invité de Boomerang ce matin pour Ensemble, on aboie en silence l'histoire, on l'a compris, de deux frères unis, qui s'éloignent, se cherchent, se retrouvent, deux frères qui ont l'air d'être l'antithèse l'un de l'autre, mais qui pourtant se ressemblent. J'aimerais, si vous voulez bien, lire un court extrait de votre texte, Gringe. « Tout comme mon frère, je ne me conforme pas. Question de principe. Ce qui m'a d'ailleurs probablement poussé à embrasser cette vie de bohème. Voilà ce qui nous lie, Thibaut et moi. » Vivre dans un éternel présent, c'est notre privilège. Évoluer sur une même échelle de temps, ensemble ou séparément. M'ancrer dans le réel, investir davantage ma vie, pourquoi faire? Dans l'incapacité ou le refus de se projeter en avant, voilà donc notre quête, à Thibaut et à moi, faire de l'instant présent le but ultime de la vie. Vivre dans un éternel présent, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça impliquerait?
C'est entretenir une illusion de la vérité, la réalité. C'est essayer de faire durer le plus possible cet état de espèce de truc quand on est jeune et qu'on se dit que ça peut durer toute la vie, quoi.
Il y a un prix à payer pour ça.
Ouais, bien sûr. C'est ce que mon frère explique un peu plus loin. C'est la répétition de ce système qui entraîne une déconnexion aussi totale de toutes les réalités, quoi. C'est vivre, c'est ça. Se soustraire au monde tel qu'on le connaît et vivre figé et dans sa tête. Quoi.
Mais pourtant, dites-moi si je me trompe, hein, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus ancré dans le réel, qu'aujourd'hui, vous projeter en avant n'est plus quelque chose qui vous fait aussi peur qu'avant.
Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai des envies, pour la première fois, j'ai des envies de construire et de pérenniser les choses. C'est des petites choses, hein. par exemple, déballer mes cartons dans mon appart,
bah oui.
Pour commencer.
Vous pouviez pas, vous étiez bloqué.
Ouais, j'étais totalement bloqué.
Qu'est-ce qui a changé, en fait?
Le kiné, j'ai trouvé un super kiné.
Non, sérieusement.
Qu'est-ce qui a changé? Mais je pense que c'est ça, c'est de me revivre, je pense, à travers les différents projets qu'on a pu faire, et que j'ai pu faire, et depuis les projets de groupe. C'est une manière à chaque fois, de me renseigner un peu mieux sur moi-même, de comprendre mes mécanismes, comment je fonctionne, et puis de travailler là-dessus, quoi.
L'envie de se projeter dans d'autres choses aussi.
Ah ouais, tout le temps. Tout le temps la peur de m'emmerder et du coup me dire voilà, j'arrive à un endroit de ma vie où je me dis bon, j'aime écrire, j'ai des petites compétences, j'ai planté des graines à gauche à droite, le rap, le jeu un peu, la comédie, comment faire, je sais pas, comment mixer tout ça, faire fusionner tout ça, qu'est-ce qui peut en sortir, c'est ma problématique du moment.
Oui, mais je vous ai entendu dire que vous vouliez arrêter le rap, vous étiez trop vieux.
Non,
mais
alors ça,
pour continuer, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah, je pense que c'est cette super journaliste, mais qui était très très chouette en plus, mais qui a coupé cette phrase. En fait, c'était j'ai plus l'âge de faire du rap dans sa forme traditionnelle. Donc c'est une phrase déjà très ambiguë, mais j'ai toujours envie de rapper, d'écrire. C'est juste que j'ai besoin de tester d'autres, peut-être, je sais pas, sonorités, manière de dire, de travailler avec aller bosser avec des musiciens, puis me laisser faire, quoi, me laisser embarquer.
Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le rap, vous, qui dont le milieu d'origine et les parents étaient plutôt tournés vers le théâtre, grave.
Ouais, complètement. Je pense qu'en arrivant à Cergy, j'ai grandi en Saint-Onge jusqu'à mes 7-8 ans, et en arrivant à Cergy, c'est là, c'est les grands frères, les grandes sœurs, enfin c'est les grands, quoi, qui écoutent ça. C'est la funk au début, dans les années 90, c'est encore un peu la funk, et puis c'est les cassettes qui tournent, c'est les rappeurs du coin, c'est Cergy, Saint-Christophe, c'est Diable Rouge, LSO, c'est des groupes pionniers du rap français, et c'est la musique en fait qu'on écoute. Voilà comment j'en viens à écrire de mon côté, sur des faces B, il y a encore des 45 tours, puis les deux titres, je pense, j'écris.
C'est intéressant hein, de partir de là, d'arriver aujourd'hui, vous avez envie de nouvelles sonorités, comme vous le dites, de nouveaux sons. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de la scène rap et de ses codes ? Que vous avez vu, je suppose, changer radicalement.
Ouais, bien sûr. J'ai pas vu toutes les étapes, mais j'ai vécu de grands, de grandes périodes du rap, quoi. Des années 90 à 2000. 2000, surtout, il s'est passé quelque chose. Ça a été des groupes qui, moi, m'ont servi de référent dans l'écriture. Comment je perçois l'évolution du rap? Je trouve que c'est une musique qui se renouvelle en permanence. C'est ça qui est assez fascinant. C'est toujours un, avec la vérité dans l'œil tout le temps quoi. C'est le reflet de ce qu'on vit, c'est de nos sociétés. Il y a quelque chose de très vrai. Et je le trouve très individualiste aujourd'hui, mais c'est le reflet de nos sociétés.
Vous dites, d'ailleurs, je vous cite, hein, je viens de lire le passage, que vous ne vous conformez pas. À quoi est-ce que vous ne vous conformez pas, somme toute?
À quoi je me conforme pas? Je sais pas, au carcan, le plus répandu, au modèle en place, quoi. J'ai besoin justement de
parler artistiquement, là.
Artistiquement,
aussi.
Et en règle générale. C'est pour ça que j'ai toujours senti très mal à l'aise en allant bosser. Je me suis senti étouffé très vite en reprenant des cours à la fac. Je me conforme pas au modèle, au pluriel.
En tout cas, il y a quelque chose qui reste toujours, c'est effectivement l'écriture. J'ai l'impression que ça vous structure. Vous avez commencé à écrire, vous le racontiez. Pourquoi ça fait du bien? Pourquoi ça fait encore du bien?
C'est mon garde-fou. Ça continue de, cette, l'écriture continue de me renseigner, quoi. Voilà pourquoi ça me fait tant de bien. Et cette gymnastique-là aussi intellectuelle qui fait que si je l'arrête, je plonge dans un ennui total. Et là, ça devient, ça devient moche.
On va se faire du bien, alors, là, ce matin.
Faisons-nous du bien,
Grain. J'y trouve pour accompagner la sortie de votre livre. Vous avez révélé un nouveau morceau inspiré de votre histoire et de celle de votre frère qui s'appelle On aboie en silence et vous avez accepté de nous l'interpréter ce matin pour la première fois en direct, je crois.
Ouais.
On y va.
Hey. Hey. Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel, fout le feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes, rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des sales mômes toute la vie. Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation. Step backward sur nos parties de foot au City Stade la nuit. Tard le soir sur le parvis, on se repère au bruit du ballon. On défie le daron, l'ambiance est paramilitaire. Et puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver. Et quand je me noie dans mes larmes, que je mords le fruit du démon. C'est encore toi mon frère qui me ramasse à la petite cuillère. On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge. Et si les fous nous taxent de fous, dis-moi au fond, qu'est-ce qu'ils en savent? Celui qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer. Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd quand c'est bordel qu'on abat au silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour, mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd quand c'est le bordel on abat au silence. On abat au silence. Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour la vie. Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à court d'abri, on aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute tes histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi, t'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent, faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du froid en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd quand c'est le bordel que t'abat au silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour, mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd quand c'est le bordel on abat au silence. On abat au silence.
on n'a pas en silence.
Une prière vers le ciel, blesse sur laquelle je verse le sel. Fout le feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber, non, ce soir la nuit est belle. On s'évade entre hibernation mentale et vie réelle.
On aboie en silence, Gringe en direct sur France Inter. C'est très beau. Il est moins Grinch que grincheux, si vous regardez bien, une version câline de Pascal le grand frère, carré d'épaule, carré de barbe, cheveux au carré, avec son air de tarte-à-gueule à la récré. Celui qui vient vous chercher à la sortie de l'école, en vous accueillant avec un paquet de chocobéenne, qui porte votre cartable, qui vous demande comment s'est passée votre journée, avec son petit blouson en toile noire et bleu marine. Ce matin, Gringe, invité de Boomerang pour Ensemble, on aboie en silence, ce livre dans lequel vous revenez, on le disait, sur la maladie de votre frère, mais aussi sur votre parcours, sur votre enfance. À quoi elle a ressemblé, cette enfance?
C'est une grande question qui appelle de grandes réponses fleuves. À quoi elle a ressemblé, mon enfance? Une enfance heureuse, somme toute heureuse, et surtout une espèce d'ouverture à la curiosité en permanence, quelque chose de soufflé par mes parents, quoi, par ma mère et mon père, de par leur métier, de par leur sensibilité, la musique à la maison tout le temps, des artistes.
Et à quelles images est-ce que vous l'associez, cette enfance, encore aujourd'hui?
Je pense que j'ai gardé ça un peu intact, quoi. Il y a ce truc de candeur. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu tant de facilité à étirer le concept de l'espèce d'adolescence ou de jeunesse éternelle avec mon pote. C'est que on a gardé j'ai gardé une candeur, quoi.
La mélancolie, elle était déjà là, très jeune?
D'après ma mère, ouais. Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Une sensibilité? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est des infos qui me parviennent, que j'ai du mal à traiter, et puis c'est un état, quoi. C'est difficile à expliquer, la mélancolie, c'est un état, parce que j'étais pas un enfant malheureux. La mélancolie, ça veut pas forcément dire être malheureux. Hein. Mélancolie, c'est aussi une manière de se sentir, un muscle qui permet de se sentir exister, quoi.
Et vous en faites quoi? Vous l'entretenez, alors?
Ouais, je fais attention à comment je l'entretiens, parce que la mélancolie peut aussi nous plonger dans une espèce de noirceur. Enfin, moi, peut me plonger là-dedans, quoi, dans un truc un peu sans fond.
Elle contient de la noirceur toujours.
Ouais, bien sûr. Et j'ai toujours cette image de moi de cette poche d'encre quand ça va pas. J'ai l'image d'une poche d'encre que je perce à l'intérieur et dont le liquide se répand en moi. Et là, c'est le début de la fin.
Dans votre livre, mais aussi, c'était le cas, hein, sur votre premier album Enfant Lune, vous parliez très ouvertement de la dépression, des problèmes de drogue, des échecs, des tromperies. Parler de vos faiblesses, ça a toujours été quelque chose de naturel pour vous, Gringe?
Je pense. Ouais, cette absence de filtre.
C'était aussi un environnement où on vous laissait parler?
Bah, je pense, ouais. Un environnement familial, éducatif, où on pouvait parler de tout, on pouvait se confier, on était accompagné par mes parents, nous accompagnaient, quoi. Donc il y avait une liberté, oui, effectivement, de pouvoir dire les choses, et c'est quelque chose en plus de qu'on a pérennisé dans la musique, quoi, avec mon pote, moi tout seul. Il y a cette absence de filtre et le fait de vouloir un peu se mettre à poil.
Pourtant, cette histoire, ce livre, ce titre que vous venez de nous chanter, là, il a fallu se faire violence.
Pas pour celui-là. Il a fallu se faire violence pour certains passages du bouquin, toujours, hein, quand il faut réactiver des souvenirs un peu pénibles, quand il faut se replonger dans des états, dans des sensations qui peuvent rester après. Mais pour la première fois sur un projet d'écriture, je me sens libéré.
Qu'est-ce qu'il y a de plus violent en vous, Gringe?
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus violent en moi? La culpabilité, qui est toujours un peu là.
Mais coupable de quoi?
Mais de plein de choses. J'ai ce fameux complexe de Salieri, puis cette tendance à me fustiger un peu trop facilement, quoi.
En tout cas, cette vulnérabilité, j'ai l'impression que vous avez malgré tout été capable de la mettre toujours au service de votre écriture. D'ailleurs, la mélancolie a quelque chose à voir toujours avec la création, en tant que chanteur, mais aussi en tant qu'acteur. Jouer la comédie, qu'est-ce que ça représentait pour vous?
C'est une autre musique, justement. La comédie, c'est une musique collective. Il y a un truc qui me décentre de moi instantanément. Et oui, c'est ce qui me fait tant de bien, en vérité.
C'est incarner un autre personnage, une autre voix.
Alors, j'ai jamais été, je pense, dans les quelques rôles que j'ai pu jouer, j'ai jamais été trop loin non plus de qui je suis, et c'est pour ça aussi je pense qu'on venait me chercher, c'est qu'il y avait quelque chose.
On vous a vu notamment dans Les Chatouilles d'Andréa Bescon.
Ouais, par exemple.
Pas de sentiment d'imposture quand vous jouez?
Non, il y a plus un sentiment de légitimité, enfin de responsabilité, de dire ok, là la responsabilité elle est collective. Si moi j'envoie une fausse note, c'est toute la partition que ça peut foirer.
Mais qu'est-ce qui vous manque ?
On fait confiance, mais qu'est-ce qui, je sais pas.
Pour vous sentir à l'aise, gringe.
Ça ne changera jamais.
Il va avec le théâtre, milieu dans lequel vous avez pourtant baigné, vous terrifie totalement.
Ah ouais, mais parce qu'il faut être dans l'instant et dans la vérité en permanence.
Mais pourtant la scène, c'est un lieu qui vous est familier.
Ouais, mais on peut se planquer derrière la musique ou un pote.
Vous êtes produit devant des milliers de gens.
De m'avoir.
Ben non, mais c'est étonnant quand même.
Non, mais il y a toujours ce truc-là. Ouais, mais je pense que ça me remet aussi les pieds sur terre en permanence. Ça me permet de pas devenir mégalo.
La première fois que vous avez été sur scène devant un public, qu'est-ce qui s'est passé en vous ?
Ouais, ça c'est des moments hors du temps, suspendus et hors du temps.
Vous aviez peur ?
Adrénaline terrifiée. J'en ai fait des cauchemars des semaines avant, mais terrifiée. Ah ouais, bien sûr. Mais il y a un truc qui, d'un coup, le temps n'existe plus sur scène. C'est-à-dire qu'on peut passer une heure sur scène, on a l'impression d'y être resté 3 minutes, quoi.
C'est-à-dire que la peur et le plaisir sont complètement indissociables.
Ah ouais, ils sont très voisins et nous, on marche sur une ligne entre les deux. Une fine ligne. En équilibre.
Ça vous manque, là?
Ouais. Ouais, toujours. C'est pour ça que, le rap sera toujours là et la scène. Je bosse avec Pawn, mon DJ, qui est un super artiste, incroyable. Et j'ai d'autres envies de rap et de musique pour la suite et avec lui.
On se fait un peu peur et plaisir en même temps, là, maintenant, ou pas?
Voilà. Donc ça, c'est ce fameux suicide en direct dont on parlait avant l'émission.
Non, c'est pas suicide en direct, vous êtes dans Boomerang. On peut pas faire plus bienveillant, quand même, mission, vous le savez.
Non, mais quelque chose.
Bah, si.
J'ai écrit pour l'émission, il y a 2-3 jours, donc c'est...
C'est ça, vous n'êtes pas gagné. C'est un freestyle, hein. Rien que pour nous.
Ouais, un petit texte écrit pour vous. Enfin, pour vous. Ouais. C'est l'extension du bouquin et,
On va dire que c'est de l'écriture.
C'est de l'écriture.
Vous êtes prêt?
Je sais pas.
Alors, c'est vous qui lancez le Boomerang pour lancer le son.
Ça marche.
Vous y allez.
Alors, attendez. Je vais quand même ouvrir mon bloc-notes par sécurité.
Ouais.
Parce que l'imposteur a toujours ses petites fiches quand même.
C'est à vous.
C'est parti. Hey. Hey. Ouais. Hey. J'ai vécu ma meilleure vie à 16 ans. Découvert l'argot sur des vieilles cassettes de rap, c'est franc. Quand je ridais mon vélo pour voir jusqu'où le territoire s'étend. C'est loin mais je me souviens de tout depuis le jour 1. Des imitations Breitling et de la mode et tétine. Des baby Jordan que les grands s'enlacés autour du cou. Du chemin du collège et de la station essence mobile. On rentrait à 50 avant d'étaler comme des fous. Je me souviens de la première vague des New Jack, Radio Nova, joue Mary J, puis les premiers Tupac, boom, tchac, les après-midi dansantes entre couilles, les grandes vacances aux étangs qui finissaient en dépouille. Pote avec qui je grandis, détaille le prix du marron. Loin à l'époque des parties de foot, quand la nuit tombait, on se repérait juste au bruit du ballon. La haine en 95, les plus chauds retournent la ville, que killer scratch sont vénés. Intimidé par les filles, en face tu perds ton bagot. Du haut de la passerelle débarque quand on jetait des cailloux. Je me rappelle les jours entiers à se vanner, les grands qui venaient se pavaner. Eli Hansen, Bob, Tatou. Et j'ai porté mes premières basiques blanches en frimant. Vécu dans un pave sans subir de racisme anti-blanc. J'ai grainé qui prennent racine dans le ciment. On partage tous des centimes aux sentiments. Depuis le premier Wu-Tang, je te fais basculer dans un monde à part. C'est Gringe sur Boomerang avec Augustin Trapenard.
c'est tellement bien. Merci infiniment.
C'est gentil.
Merci infiniment, Gringe, pour cette générosité de se livrer comme ça. Je sais que c'est pas toujours facile. Et merci à Ronan Mahé ce matin à la prise de son. Je rappelle que cette séquence est à retrouver sur nos réseaux sociaux, les deux d'ailleurs. Votre titre en live également sur le site de France Inter. Je rappelle aussi qu'Ensemble, on aboie en silence vient de paraître aux éditions HarperCollins. C'est moins l'histoire d'une maladie que celle poignante d'un amour fraternel et celle aussi de votre vie. Je le conseille, ce livre, aux auditeurs de Boomerang, vraiment.